des crises sanitaires dont on n'est pas encore sorti manifestement, et puis maintenant crise internationale, c'est pas la première, mais elle est quand même majeure. Et ce qui me semble spécifique de notre situation aujourd'hui, on peut dire vraiment ce soir, à l'instant présent, c'est que ces crises ne semblent pas s'additionner les unes aux autres, mais se nourrir mutuellement. C'est vraiment une convergence de crises qui produit des détresses, qui produit des drames, des tragédies, parce qu'elles se multiplient, ces crises. Je prendrai juste un exemple. On voit bien que ce qui se passe en Ukraine, c'est une crise humanitaire, c'est une crise internationale, géopolitique, mais c'est aussi une crise environnementale. On l'a vu avec les grandes menaces sur les centrales nucléaires. Et puis, ce sont évidemment des crises sociales qui commencent et qui vont se poursuivre avec cette ruine pour des centaines de milliers de familles qui sont obligées de s'exiler. Donc, ça va être des crises sociales. On voit crise environnementale, crise internationale, crise sociale, tout cela se combine et se nourrit, se renforce mutuellement. Et d'autant plus qu'actuellement, on a pris conscience de la gravité de la crise environnementale et donc, au moment même où on aurait besoin d'être tous ensemble, tous les pays du monde auraient besoin de s'investir pour une transition énergétique, pour se retrousser les manches ensemble, pour affronter les défis climatiques, eh bien voilà que toute l'énergie est mise dans la destruction, dans des affrontements militaires. Et on voit là cette crise militaire, cette crise géopolitique et humanitaire, elle ne fait que ralentir les efforts pour s'attaquer à la crise environnementale et probablement qu'elle va la renforcer. Donc on voit que c'est un moment tragique, un moment de l'histoire que nous vivons actuellement, un moment tragique parce que toutes les crises se nourrissent, se multiplient, se renforcent. Et au moment même où on aurait besoin d'être unis pour faire face, eh bien nous nous déchirons, nous nous entretuons. Alors, je vous propose, pour regarder notre actualité, de nous tourner paradoxalement vers un homme du passé. Jacques Ellul, que je vais présenter maintenant, parce que j'imagine qu'il y a parmi vous des personnes qui le connaissent, peut-être même qui le connaissent bien, qui ont lu des livres de lui. Sans doute, pour certains nombre d'entre vous, connaissent de nom. Et puis, sans doute, certains nombre d'entre vous ne le connaissent pas du tout. Donc, je vais dire deux, trois choses d'abord sur cet homme, mais je dirais qu'il va, si je l'ai choisi, c'est parce qu'il nous offre une grille de lecture de nos crises, et surtout, ce que je dirais à la fin, ce qui est peut-être le plus important, le plus précieux, c'est qu'il nous donne des raisons d'espérer dans nos crises. Et dans nos crises d'aujourd'hui, lui qui ne les a pas connues, puisqu'il est mort en 1994. Alors, quelques mots sur cet homme, Jacques Ellul, né en 1912, mort en 1994, donc un homme qui a traversé quasiment tout le XXe siècle et qui a connu ce que l'on sait du siècle dernier, c'est-à-dire le siècle de tous les rêves, de toutes les utopies, de tous les espoirs, et puis le rêve de toutes les trahisons, de toutes les infamies, de toutes les abominations. Le rêve des génocides, le siècle des génocides, le siècle de deux guerres mondiales, etc. Et il est en quelque sorte le témoin de ce siècle, et c'est un homme qui a observé, qui a analysé ce qui se passait, et qui a essayé d'anticiper. C'est pas Nostradamus, hein, c'est pas quelqu'un qui a eu des visions et qui voit l'avenir, c'est plutôt un prévisionniste, c'est-à-dire quelqu'un qui, il disait, je regarde la réalité et je poursuis les courbes. Je regarde où vont les courbes, et toutes les courbes, hein, les courbes économiques, les courbes technologiques, mais aussi les courbes religieuses, les courbes sociologiques. Et si on poursuit les courbes avec, disons, le rythme d'aujourd'hui, si on les poursuit, on peut voir où ça va. Et c'est ainsi qu'il a prévu un certain nombre de choses qui se sont passées après après sa mort. Bon, il avait déjà prévu, étant jeune, des choses qui se sont passées au cours de sa vie, et puis il a prévu des choses qui se sont passées depuis sa mort. Et on se dit donc que peut-être que des choses qui ne sont pas encore survenues, il les a aussi prévues, et c'est, vous allez voir, quelque peu effrayant si on regarde ce qu'il nous disait de notre avenir. Je prendrai juste deux exemples, et puis je reviens à la présentation de Jacques Ellul de sa vie. Je prendrai deux exemples qui vont nous faire frémir, mais voilà, peut-être qu'il faut quand même regarder la réalité en face. Deux choses qu'il a dites et qui sont terriblement effrayantes. Une première chose, c'est quand à la libération en 1945, après la mort de Hitler, quelques semaines après, trois semaines après je crois, alors que, vous connaissez le contexte, hein, tout le monde exultait, enfin la libération, enfin on est libéré du nazisme, enfin on est libéré de la guerre. Il a écrit à la une du journal Réforme, de l'hebdomadaire protestant Réforme, un titre très provocateur, mais c'était un homme très provocateur, c'était « Victoire de Hitler ». Imaginez le pavé dans la mare, hein, les gens étaient heureux de sortir de la guerre, et puis il vient de dire que c'est Hitler qui a gagné la guerre. Alors, il y avait un point d'interrogation dans le titre, mais dans le cœur de l'article, il n'y avait pas de point d'interrogation, parce qu'il affirme que, en fait, Hitler a gagné de façon posthume la guerre, parce qu'il a contaminé les démocraties. Parce que pour l'emporter sur Hitler, il a fallu l'imiter, il a fallu faire comme lui, c'est-à-dire il a fallu être plus puissant que lui, il a fallu déployer des moyens techniques inouïs pour être plus fort que lui. Et d'une certaine manière, il nous a contaminés, nous, démocratie, nous avons attrapé le virus de ce totalitarisme technicien, et nous allons maintenant le faire fructifier avec une démesure technicienne, mais aussi avec des camps de concentration, de la torture qui va être systématisée dans les démocraties, disait-il en 1945, hein, on est avant la guerre d'Algérie, on est avant Guantanamo, il avait prévu des choses, mais les gens disaient, mais qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce que c'est que ce farfelu, mais est-ce qu'il n'a pas eu quelque peu raison lorsqu'il dit, nous avons été contaminés par le virus du nazisme. Bon, voilà, un premier élément qui vous donne, alors vous pourrez réagir tout à l'heure, hein, dans le débat, peut-être que vous considérez qu'il est péremptoire, qu'il est excessif, mais voilà le type d'analyse qu'il propose. Et puis il y en a une qui est peut-être encore plus saisissante et plus angoissante. Lorsqu'un peu plus tard, à la fin des années 70, début des années 80, après la révolution iranienne, de l'ayatollah Khomeini, et ce qu'on a appelé le retour du religieux. On pensait que tout le monde était sécularisé, que les religions reculaient, et puis on a vu un retour du religieux, mais sous une forme fanatique. Et à ce moment-là, en 1980, il a dit quelque chose qui peut nous faire frémir aujourd'hui. Il a dit que... Il a repris cette fameuse formule d'André Malraux, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas, et il l'a subverti en disant le 21e siècle sera religieux, donc il ne sera pas. Donc le 21e siècle sera le dernier siècle de l'aventure humaine. Parce qu'il sera religieux, à cause du retour du religieux, à cause du fait que les conflits du 21e siècle seront des conflits religieux, c'est-à-dire qu'on se battra non plus pour des intérêts nationaux, mais pour la vérité. Et si on se bat pour la vérité, ces conflits seront d'autant plus dévastateurs. Et ça, on peut quand même voir avec le recul combien il avait eu, me semble-t-il, mais vous pourrez le contester, hein, me semble-t-il, une intuition en voyant à quel point le religieux peut être embrigadé au service de certaines causes. On le voit évidemment avec l'islamisme, avec le terrorisme islamiste, mais on le voit aussi avec l'Ukraine, hein, quand on voit à quel point le religieux est présent dans ce conflit. Hein, on sait que l'église orthodoxe russe est partie prenante, son patriarche, qui est un ancien agent du KGB quand même, hein, qui est patriarche de l'église orthodoxe russe, mais qui a connu Vladimir Poutine au KGB, où ils étaient ensemble, voilà qu'ils sont religion et État militariste et totalitaire main dans la main, avec des raisons religieuses, hein, contre les forces du mal. C'est le discours hein, du patriarche Kirill. Donc il faut entendre ça et voir à quel point, me semble-t-il, hélas, Ellul avait raison. Hélas, lui-même disait, j'espère me tromper, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même là quelque chose de vrai. Alors, je reviens à Jacques Ellul pour le présenter rapidement. Vous voyez que c'était pas un grand optimiste, hein. C'était pas un homme qui voyait l'avenir en rose. Alors, qui est-il ? C'est un homme de Bordeaux. Il a vécu presque toute sa vie à Bordeaux, sauf à un moment où il a été à Strasbourg, juste avant la Seconde Guerre mondiale, mais... professeur à l'université de Strasbourg, mais à ce moment-là, l'université a été transférée à Clermont-Ferrand, comme vous le savez. Donc, c'est un juriste d'abord, professeur de droit et professeur à l'Institut d'études politiques, donc à la faculté de droit et à l'Institut d'études politiques de Bordeaux, pendant l'essentiel de sa carrière. Et c'est aussi un théologien protestant, qui a écrit de nombreux livres de théologie, de commentaires bibliques, d'éthique chrétienne. Ce qu'il faut bien comprendre dans son œuvre, qui est considérable, hein, c'est plus de 60, près de 70 livres, 1300 articles, c'est que son œuvre se déploie selon deux versants, un versant sociologique, historique, sur la société dans laquelle nous vivons, quelle est cette société marquée par la technique et l'analyse donc de cette société, et puis un versant théologique qui consiste à essayer de discerner quelle est la mission des chrétiens aujourd'hui dans cette société-là. Et ces deux versants, donc à peu près la moitié, hein, 35 livres de chaque côté, ces deux versants doivent être compris en dialectique, c'est-à-dire qu'il décrit la société telle qu'il la voit, il l'analyse, la société marquée par la puissance technicienne, et par le déferlement technologique. Il décrit une société qui va vers l'abîme, on va le voir plus en détail, une société qui va vers sa perte. Mais il y a un contrepoint théologique qui est le contrepoint de l'espérance. On verra en quoi cela consiste. Et donc, les deux versants se répondent. Il dira, c'est parce que je suis soucieux des faits, soucieux de la réalité, que j'ai pu regarder cette société telle qu'elle est, mais aussi parce que j'avais l'espérance qui va au-delà de ce monde et qui m'a permis de regarder avec lucidité cette société, sinon j'aurais arrêté mes recherches ou je me serais suicidé, dit-il. Hein. Il a été tenté par le suicide quand il a vu vers où nous allons. C'est son espérance chrétienne qui l'a retenu de se suicider. Et inversement, c'est parce qu'il est juriste, sociologue, historien, que sa théologie est une théologie très incarnée. C'est pas une théologie hors sol, comme vous allez le voir. C'est une théologie, c'est un regard chrétien sur le monde qui prend en compte les réalités concrètes du quotidien de nos contemporains. Alors, encore deux, trois éléments sur sa vie. Bon, il a donc été essentiellement un chercheur, un enseignant, il a beaucoup écrit, mais il a eu aussi un certain nombre d'engagements. D'abord, il a eu une petite expérience politique juste après la libération en 45. En 1944, plus exactement, à la mairie de Bordeaux. Il a été premier adjoint au maire de la ville de Bordeaux en 1944-1945, pendant 6 mois, très petite expérience politique, parce qu'il avait fait de la résistance. Bon, je ne vais pas vous donner les détails de sa vie, qui est très riche et passionnante, mais avant les élections pour remplacer la municipalité collaborationniste de Bordeaux, on a demandé au cadre du Conseil national de la Résistance de prendre en charge les affaires municipales. Il a eu cette petite expérience politique. Et pour lui, ça a été cuisant parce qu'il n'a plus jamais fait de politique ensuite. Parce que, dira-t-il, je me suis rendu compte que l'homme politique, en réalité, dans la société moderne, n'a aucun pouvoir. Le pouvoir n'est pas dans les mains des hommes et des femmes politiques. Parce que, au quotidien, il avait 20 dossiers chaque jour à traiter. Il était chargé, il était enseignant à la faculté, donc il faisait ça en plus de son travail. Il disait, j'ai pas le temps en 24 heures de prendre connaissance de ces 20 dossiers. Et par conséquent, je fais confiance à mes conseillers, c'est-à-dire à des experts, à des techniciens qui orientent donc ma signature. Et donc, le vrai pouvoir, il est chez les techniciens, il est chez les experts, il est chez les hommes et les femmes des cabinets que l'on ne voit pas au devant de la scène. Et dans une société qui n'était pas encore médiatique comme aujourd'hui, mais qui va le devenir, il dira, ben, les hommes et les femmes politiques, ils sont devant les médias, mais qu'en réalité, ce n'est pas eux qui ont le pouvoir, ce n'est même pas eux qui écrivent leurs discours, ce sont des personnes qui les conseillent. Et devant cela, ben, il va parler d'une illusion politique, ce sera le titre d'un de ses livres, l'illusion politique, et il va se retirer définitivement de la politique. Néanmoins, il va avoir un engagement politique, mais pas par le biais des partis ou des élections, mais par le biais des petits groupes de résistance. Il va avoir une action, on va dire, écologiste. C'est un précurseur de l'écologie, hein, un écologiste avant l'heure. Dès les années 30, hein, dès ses premiers textes en 1935, alors qu'il n'a que 23 ans, il écrit des textes qui appelle à une sobriété de vie. Hein, donc, à une époque, il n'y avait pas beaucoup d'écologistes. Il était déjà écologiste. Et donc, il va avoir un engagement de type écologiste pour défendre des territoires, et notamment, parmi ses engagements, le plus important, ça a été la défense de la côte d'Aquitaine, qui est cette côte qui va du Médoc jusqu'au Pays Basque, hein, vous la connaissez peut-être, qui est une côte relativement préservée, encore aujourd'hui, très sauvage, et ça, c'est grâce à lui. Parce qu'il y avait un projet d'en faire une deuxième côte d'Azur et donc de bétonner toute cette côte et de faire des ports de plaisance de luxe et des grands hôtels. Eh bien, il a organisé une résistance par des petits groupes dans les villages et par une action juridique, bien entendu, puisqu'il était juriste. Et donc, peut-être sa seule victoire, en tout cas, c'est une victoire. La côte d'Aquitaine a été sauvegardée grâce à lui et à ses amis. Un autre type d'engagement qu'il a eu, c'est un engagement social. Il était très soucieux de la jeunesse et notamment de la délinquance juvénile. Il a créé un des premiers clubs de prévention de la délinquance. Et il en a été le président pendant un certain nombre d'années, et ce n'était pas un président en chambre, c'est-à-dire ce n'était pas un président qui restait chez lui et qui signait les papiers, c'était quelqu'un qui allait avec les éducateurs au contact des jeunes dans la rue, on appelait les blousons noirs à l'époque, hein, c'est les années 50-60, et qui avait, on s'éloigne un peu de notre sujet, mais c'est pour vous présenter le personnage, quand même très original, il avait une approche, une technique pour approcher les jeunes très particulière. Au lieu de construire des centres sociaux pour les jeunes, pour qu'ils viennent en leur proposant des activités, il allait au contact des bandes de jeunes avec des éducateurs. Il se faisait en quelque sorte apprivoiser, voire même certains éducateurs étaient adoptés par la bande de jeunes. Et ensuite, à l'intérieur de la bande de jeunes, il proposait que les jeunes se mettent à construire leur centre et qu'ils fassent leur propre centre de prévention ou d'insertion. C'était donc une forme d'autogestion, hein, qu'il proposait et qu'il a conduit à un certain nombre d'actions remarquables dont il témoignera par la suite. Et puis un troisième type d'engagement, et je m'arrêterai là pour l'évocation de ce personnage, avant de parler de ses idées, c'est un engagement ecclésial. Il était protestant, donc il s'était pas un protestant de famille, hein, il s'était converti à l'âge de 17 ans, et donc il avait choisi la famille protestante, et il était donc non pas pasteur, mais il avait une délégation pastorale permanente, c'est-à-dire qu'il avait une formation en théologie qui lui permettait, tout en étant laïque, eh bien, de, d'avoir des activités pastorales. Il prêchait, il faisait de la catéchèse, il faisait des visites, il baptisait, il mariait, il enterrait, etc. Tout comme un pasteur, tout en étant laïc. Et il était aussi, donc au niveau local, à Pessac, dans sa commune, dans la banlieue de Bordeaux. Pendant très longtemps, il n'y avait pas de pasteur et c'était lui qui animait la communauté. Et puis également, au niveau régional, dans les synodes régionaux, il a été longtemps délégué au synode régional de sa région d'Aquitaine, et ensuite au synode national et au conseil national, qui est donc l'exécutif de l'Église réformée de France, comme elle s'appelait à l'époque. Donc il a été à l'intérieur du système, à l'intérieur de l'appareil ecclésial, avec, là aussi, pas trop développer cet aspect-là qui est un peu loin de notre sujet, mais sachez qu'il avait toujours des positions à contre-courant, des positions assez contestataires à l'intérieur même de l'Église. Donc, ces trois engagements écologistes, social et ecclésial. Alors, je vais présenter maintenant ces idées sur les crises. D'où viennent les crises et comment les traverser ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons été vaincus par Hitler, nous avons été contaminés par cette démesure technicienne qui vient du Troisième Reich, qui avait un peu commencé avant, mais qui à l'époque du Troisième Reich, l'Allemagne était le pays le plus technicisé au monde. Et cette démesure, eh bien, nous l'avons intégrée, et c'est donc le phénomène technicien qu'il va beaucoup analyser après la guerre, donc dans les années 40-50, hein, ses premiers livres sur le phénomène technicien, et il va essayer de montrer que notre société moderne, et on pourrait dire aujourd'hui a fortiori, mais déjà dans ces années 40-50-60, notre société moderne est une société marquée fondamentalement par la technique, par le phénomène technicien. Alors c'était original de le dire à l'époque, parce que les débats à l'époque, c'était débats idéologiques, politiques, hein, entre le modèle de l'Est, le modèle de l'Ouest. La plupart des intellectuels français étaient marxistes, et donc, mais il y avait plusieurs courants entre marxistes orthodoxes, staliniens, trotskistes, etc. C'est ça qui passionnait les intellectuels, alors que lui se situait ailleurs. Il disait que qu'on soit en Union soviétique, aux États-Unis ou en Europe, partout on retrouve la même course à la puissance technicienne, le même productivisme. Et qu'on soit donc dans un système totalitaire ou dans un système démocratique, c'est pas le système économique, c'est pas le système politique qui fait la différence, enfin qui prime. En réalité, il y a un point commun entre tous ces systèmes, c'est la course à la puissance technicienne. Et il prenait l'exemple de la conquête spatiale, hein, qu'on soit à Moscou ou à Cap Canaveral, voilà, ou à Baïkonour en Union soviétique, c'est la même conquête de l'espace. Partout, il y a la même recherche de puissance technicienne. Et donc, c'est ça qui est l'enjeu du siècle. Hein, c'est le titre de son premier livre sur la technique ou l'enjeu du siècle. L'enjeu du siècle, c'est la technique. Alors, je vais dire deux, trois choses sur la technique, parce que pour lui, c'est fondamental. Quelle est sa vision de la technique qui est donc le moteur de notre histoire aujourd'hui? D'abord, qu'est-ce que la technique? La technique, ce n'est pas, c'est pas la même chose que les techniques. Il fait une différence entre la technique et les techniques. Et comme c'est un universitaire, eh bien, il définit les termes après avoir pesé longuement chaque mot. Et donc, il dit, il y a des techniques qui sont des moyens par lesquels l'homme s'est émancipé à l'égard du milieu naturel, hein, par des outils, par des moyens qui lui permettent d'obtenir certaines améliorations de sa condition. Mais ça, ce sont des techniques. Mais la technique, il l'a définie de la manière suivante, il dit la technique, c'est la recherche en toute chose de la méthode absolument la plus efficace. La recherche en toute chose de la méthode absolument la plus efficace. Et donc, chacun des mots de la définition compte, parce que si on dit c'est la recherche, c'est pas une technique, c'est pas un outil, c'est une recherche. Par conséquent, c'est il y a une dimension immatérielle dans la technique. Il n'y a pas qu'une dimension matérielle. Ce n'est pas que des usines, ce n'est pas que des outils, ce n'est pas que des objets, même si ça englobe tout ça, bien entendu. Mais il y a aussi une mentalité technicienne. Il y a aussi un système de valeurs technicien. Oui, c'est la recherche. C'est la recherche en toute chose. Donc, ce n'est pas seulement la production qui est marquée par la technique. C'est aussi nos loisirs vont devenir, dit-il, déjà de plus en plus techniciens. Nos moyens, nos façons d'être en relation les uns avec les autres, hein, il voyait ça bien avant la révolution micro-informatique, il disait nous allons être de plus en plus en relation les uns avec les autres par la technique. C'est aussi nos façons de parler, c'est aussi nos façons de raisonner, c'est notre manière de voir le monde, tout ça est marqué par la technique. Donc ce n'est pas seulement la production, mais c'est en toute chose, tout notre mode de vie devient de plus en plus technicien. Donc la recherche en toute chose, de la méthode absolument la plus efficace. Donc la technique, c'est l'absolutisation de l'efficacité. Alors, l'efficacité, c'est une valeur de tout temps, hein. Les hommes n'auraient pas pu vivre sans un minimum d'efficacité, on n'aurait pas pu se réunir ce soir ici sans un minimum d'efficacité, évidemment. Donc pas de vie sans efficacité, mais ce qui compte dans cette définition, c'est absolument, c'est-à-dire l'efficacité est un absolu. Et tout ce qui n'est pas efficace est balayé. Donc la technique, c'est la recherche effrénée de l'efficacité, ou pour le dire autrement, c'est l'idolâtrie de l'efficacité. C'est l'absolutisation de l'efficacité, valeur sur l'autel de laquelle on sacrifie toutes les autres valeurs. La technique, c'est donc cette recherche de l'efficacité à tout prix, et donc tout ce qui n'est pas efficace, et tout ce qui est pour le bien de l'homme, tout ce qui est pour la poésie, pour l'imagination, pour tout ce qui est de l'ordre de l'affectif, tout cela est balayé, ce qui compte c'est l'efficacité. La technique c'est aussi le milieu dans lequel nous baignons, c'est le nouveau milieu de l'homme, dira-t-il. Jusqu'ici, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'aux années 30, l'homme vivait dans un milieu naturel avec des techniques. Et maintenant, nous vivons dans un milieu technique, c'est-à-dire que la nature a quasiment disparu, et c'est la technique qui est notre milieu dans lequel nous baignons. Alors, comme un poisson dans l'eau d'un aquarium ne voit pas l'eau, nous ne voyons pas à quel point nous sommes technicisés. Nous voyons un peu, de plus en plus, mais néanmoins, nous ne voyons pas que la technique a pris une emprise sur notre imaginaire, a pris une emprise sur nos façons de penser, de parler, parce que nous baignons dedans. Nous sommes totalement immergés et nous n'avons pas de recul, de point d'appui extérieur. Donc c'est le nouveau milieu de l'homme. Cette technique, et ça c'est une thèse qu'il a défendue très tôt, qui a été très contestée, qui est encore contestée aujourd'hui, qui est effrayante, c'est pour ça qu'on la conteste, mais qu'il a toujours défendue, la technique a pris son autonomie. La technique est autonome, c'est-à-dire que c'est l'homme évidemment qui a mis au point des techniques et qui s'est engagé dans une voie technicienne, mais la technique a échappé à la maîtrise de l'homme. Nous ne maîtrisons plus rien. À ce sujet, je vais faire une petite parenthèse qui va vous effrayer, mais vous allez être effrayé ce soir. Vous êtes déjà effrayé. En regardant la télévision, on est déjà effrayé, mais vous allez l'être encore. Mais rassurez-vous, il y aura un peu d'espérance à la fin de mon propos. Et quelque chose qui m'a effrayé dans ma vie personnelle, il y a un certain nombre d'années que je travaille à la pensée de Jacques Ellul, que j'ai lu son œuvre, que je fais des conférences comme ce soir. Dans tous les milieux, dans les milieux d'église, dans les milieux associatifs, dans les milieux militants, chez des zadistes, tout ça, on me demande de parler de Jacques Ellul parce qu'il devient un homme de référence. Et un milieu dans lequel je ne pensais pas être invité, c'était le milieu du CAC 40. J'ai été invité par des grands patrons, des grands entrepreneurs du CAC 40, des patrons de multinationales, au sommet d'une tour privée de Bruxelles. À l'intérieur de la tour, il y avait un luxe que je n'avais jamais vu de ma vie. Et j'étais invité là. Pourquoi ? Parce que ces patrons se réunissent, un petit groupe, un peu comme le même nombre que vous, mais un peu différent de vous, évidemment, qui se réunissent une fois par mois, le samedi matin, 2 heures, dans leur agenda surbooké. Ils prévoient 2 heures pour inviter quelqu'un qui va les faire réfléchir à leur éthique d'entreprise. Management, philosophie du management, etc. Et ils avaient entendu parler d'Ellul, donc ils m'ont invité. Et je leur ai fait une conférence d'une heure, comme aujourd'hui. J'aurais dit à peu près la même chose que je vous dis. Je m'attendais à recevoir des tomates. Quand je leur ai parlé d'autonomie de la technique, de non-maîtrise, à la fin, au moment du débat, ils se sont tous retournés les uns vers les autres, ils se sont dit, élu la raison. On ne maîtrise plus rien. Eux qui ont des multinationales, qui ont des moyens inouïs, certains ont des moyens plus importants que certains États, hein, eh bien, ils reconnaissent qu'on ne sait pas où on va, mais on y va. C'est-à-dire qu'on n'a plus la maîtrise de l'histoire. Mais on ne peut pas faire autrement que de continuer. Ça m'a un peu... Voilà, ça m'a marqué cette expérience, parce que je me suis dit, si même eux disent ça, si même eux reconnaissent qu'Élu avait raison, c'est quand même pas très rassurant. Je ferme la parenthèse, et je reviens à son analyse de la technique. Donc, il nous dit que la technique a pris son autonomie. Il nous dit aussi quelque chose qu'il faut bien comprendre pour saisir la pensée qui est subtile, hein, qui est une pensée dialectique d'Élu sur la technique. Il ne nous dit pas du tout que la technique est mauvaise en soi. Il ne nous dit pas que la technique est diabolique, il ne nous dit pas que la technique n'a que des mauvais côtés, il ne nous dit pas non plus que la technique c'est le paradis, qu'elle est bonne en elle-même, mais il ne nous dit pas non plus ce que la plupart des intellectuels encore aujourd'hui soutiennent, que la technique est neutre. Soit elle est bonne en soi, soit elle est mauvaise en soi, soit elle est neutre. C'est-à-dire, si elle est neutre, ça veut dire que la technique, eh bien, elle est là, et selon notre conscience morale, nous pouvons l'utiliser pour le bien ou pour le mal. Eh bien, Jacques Ellul conteste la thèse de la neutralité de la technique. Elle n'est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre. Alors, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il dit que la technique est ambivalente. Ambivalente, ça signifie que toute innovation technique a toujours et nécessairement des effets positifs pour le confort, pour le bien le niveau de vie, la hausse du niveau de vie, le confort matériel de l'homme, et en même temps, et de manière absolument indissociable, a des effets catastrophiques. Et qu'on ne peut pas avoir les uns sans les autres. Qu'on ne peut pas, au nom de notre conscience morale, choisir les effets positifs et ne pas être touché par les effets négatifs. Alors, je vais prendre juste trois exemples pour vous donner une idée de ce qu'il nous dit. Il prend l'exemple encore très sensible aujourd'hui, mais déjà sensible à son époque, de l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, c'est fabuleux. Ça nous permet d'avoir de l'énergie, de l'électricité, des TGV, etc. C'est une énergie fantastique. Il n'a jamais dit le contraire. Mais il a dit, ne disons pas la moitié des choses, parce qu'on met toujours ça en avant et c'est incontestable. Mais on ne peut pas avoir cela sans les déchets dont on ne sait que faire et qu'on enfouit parce qu'on espère que nos successeurs trouveront des solutions. On n'en a pas, mais on continue à produire de l'électricité nucléaire sans avoir une solution pour les déchets. On ne peut pas avoir le nucléaire sans les déchets, évidemment. On ne peut pas avoir le nucléaire sans les risques. Les risques d'accident. Il a connu Tchernobyl. Il n'a pas connu Fukushima, mais il l'avait annoncé. Il avait dit, après Tchernobyl, il y aura pire. Et puis, il n'a pas connu ce que nous connaissons aujourd'hui. Pas que les accidents pour des raisons techniques, mais il y a des accidents pour des raisons militaires, pour des raisons de guerre. Et puis, il y a des attentats possibles. Il semblerait que le quatrième avion du 11 septembre 2001 visait une centrale nucléaire et qu'il s'est écrasé en rase campagne grâce au sang-froid du pilote qui avait voulu éviter cette centrale nucléaire. Donc, il y a aussi des risques d'attentats. Et il le disait déjà, en 1980, après la révolution islamique d'Iran, il disait « Les centrales nucléaires sont le talon d'Achille de nos démocraties. Un jour, des terroristes islamistes fonceront avec des avions sur les centrales nucléaires. » Il avait dit en 1980. Donc voilà, on ne peut pas avoir les bienfaits sans avoir les catastrophes. Et on voit bien que c'est indissociable. On ne peut pas avoir les uns sans les autres, on ne voit vraiment pas comment on pourrait avoir les uns sans les autres. Prenons un deuxième exemple, l'exemple d'Internet. Alors, il n'a pas vraiment connu Internet, mais il l'avait prévu, vous voyez vers où nous allions. Internet, c'est fabuleux, c'est une mémoire inouïe, c'est une possibilité d'être en lien avec le monde entier en un seul clic, on a une capacité de faire des choses que nos aïeux n'imaginaient même pas, mais en même temps, tous ces bienfaits d'Internet eh bien, se paye avec des addictions. Et des addictions, vous le savez, ce sont des addictions inouïes. Avec Internet. Il y a des personnes qui passent 20 heures par jour devant les écrans parce qu'ils sont pris, parce qu'ils sont sous emprise. Alors on va dire que ce n'est pas forcément les mêmes, encore que, hein, pas sûr que nous ne soyons pas tous quelque peu addicts. Mais voilà, ce n'est pas forcément les mêmes, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'ambivalence. Internet, c'est le pire comme le meilleur. Et puis c'est aussi la pollution que nous envoyons dans le tiers-monde parce que tous les écrans, ben on ne veut pas les garder chez nous quand ils sont obsolètes, donc on les envoie et c'est donc pour faire payer les bienfaits par d'autres. Voilà pour Internet. Et alors je prendrai un troisième, dernier exemple que donne Jackie Lull qui va peut-être vous faire sourire ou rire jaune, hein, ou grincer des dents, parce qu'on n'y pense jamais à cet exemple-là. Et comme on est encore, on est en train de sortir, espérons-le, mais on est encore dans une crise sanitaire, c'est la question du progrès médical. Pas parler des vaccins, mais on va parler des grèves d'organes. Les grèves d'organes, Jackie Lull a analysé de près comment les premières grèves ont eu lieu dans les années 80, début des années 80. Les grèves d'organes, et peut-être que parmi nous, il y a des personnes qui vivent grâce aux grèves d'organes, ou qui vivent mieux, ou voire qui sont en vie grâce aux grèves d'organes. Et Jackie Lull n'a jamais dit qu'il fallait renoncer à ça. Hein. C'est fabuleux ce qu'on peut faire grâce à des grèves d'organes. Ça permet à des gens de vivre mieux, voire de vivre tout simplement. Mais qu'est-ce qui a permis les grèves d'organes ? Dans les débuts des années 80, s'il y a eu ces premiers succès, c'est parce que pour greffer quelqu'un, il fallait retirer des organes sur des corps jeunes et en bonne santé. On ne va pas retirer des organes, prélever des organes sur des corps de personnes malades et âgées. Donc sur des jeunes accidentés de la route. Et c'est parce que dans les années 80, les accidents de la route étaient la première cause de mortalité des jeunes qui sortaient des boîtes de nuit, qui étaient en bonne santé, qui étaient jeunes et qui avaient donc des organes frais. Ils se tuaient sur la route et on pouvait les greffer. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir ces progrès médicaux. Et il disait de manière un peu sarcastique, si on veut faire plus d'organes, il faudrait plus d'accidents de la route, de jeunes. Et lorsque la prévention routière a fait des grands progrès, on a été en manque d'organes. Vous voyez, il y a toujours un prix à payer quelque part. La technique, c'est fabuleux, mais il y a un prix à payer quelque part. Et donc, si nous sommes pris dans une technique qui a pris son autonomie, eh bien, on aura et les bienfaits et les tragédies. Dernier point sur la technique. Encore deux derniers points. La technique est devenue un système. Qu'est-ce que ça signifie ? Le titre de son deuxième grand livre sur la technique, Le système technicien, ça signifie que la technique est devenue non pas une accumulation d'innovations, mais un réseau d'innovations. Qu'est-ce qu'un système ? C'est un ensemble de pôles qui sont en interrelation, étroitement liés les uns aux autres. Et donc si la technique est devenue un système, ça signifie que dès qu'il y a une innovation sur un des pôles, eh bien, ça bénéficie à l'ensemble des autres pôles, et donc ça accélère l'innovation. C'est un déferlement technologique. Hein. C'est, plus il y a une innovation ici, hop, les autres en bénéficient, et ça accélère le mouvement vers plus de techniques. Mais en même temps, s'il y a une catastrophe, s'il y a une guerre, s'il y a une panne, s'il y a un attentat sur un des pôles, ça immobilise l'ensemble du système. Hein. Et ça, on le sait bien, quand il y a des pannes, c'est une catastrophe, parce qu'on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus se passer de la technique, on ne sait plus se passer d'Internet pour réserver des billets, etc. Dès qu'il y a une panne, tout est bloqué. Donc le système, il est aussi ambivalent. Ce qui fait dire à Ellul que notre société technicienne, elle est de plus en plus performante, de plus en plus puissante, de plus en plus rapide et de plus en plus fragile en même temps. C'est un colosse au pied d'argile. Et enfin, le dernier point sur la technique, avant d'en venir à la théologie et à l'espérance, eh bien, c'est le caractère sacré de la technique. La technique est devenue, aux yeux d'Ellul, le nouveau sacré de l'homme. Nous avons sacralisé la technique. Nous avons fait de la technique notre nouveau Dieu, notre nouvelle idole. C'est-à-dire que nous sommes des dévots de la technique. Alors on va dire, on ne va pas se prosterner devant un ordinateur, quoique, mais bon, en principe, on ne se prosterne pas devant sa voiture. Mais qu'est-ce que ça veut dire que c'est notre nouveau sacré ? Pour Ellul, ça signifie que nous lui sacrifions notre vie. hein, sacré, sacrifié, hein, sacrifice, consacré, hein, c'est la même famille. Donc nous sacrifions notre vie. Ça veut dire que nous passons une bonne partie de notre travail pour acheter des objets techniques, donc nous sacrifions une bonne partie de notre budget, une bonne partie de notre temps, et du coup nous sacrifions autre chose, nous sacrifions notre vie familiale, notre vie relationnelle, notre vie poétique, notre imagination. Nous passons tellement de temps avec la technique, pour la technique, que la technique est devenue notre, le centre de notre vie. C'est ça, le sacré technicien. Hein. Tout ce que nous faisons pour la technique, nous ne le faisons pas pour les autres, pour autre chose. Et donc, nous sommes des dévots, croyants et pratiquants, hein, parce que nous pratiquons la technique. Et donc, ce nouveau sacré, il peut se résumer par cette formule qui est la loi de notre société moderne, société technicienne. C'est ce qu'on appelle la loi de Gabor. Denis Gabor, c'était un physicien hongrois du XXe siècle, qui disait ceci: tout ce que l'on peut techniquement réaliser sera nécessairement réalisé. Tout ce qu'on peut techniquement réaliser sera nécessairement réalisé. Et ça, c'est la loi de Gabor, c'est la loi de notre société. C'est-à-dire qu'on fait tout ce qu'on peut faire parce qu'on peut le faire, et non pas parce que c'est bon pour l'homme, parce que c'est bon pour notre santé ou pour la démocratie ou pour notre vie spirituelle. Non, c'est bon pour la technique. Donc la technique, on la fait parce qu'on peut la faire et uniquement pour ça. Alors j'en viens au versant théologique de Jacques Ellul, donc en dialectique, hein, si on est chrétien, certains d'entre nous le sommes ici, si on est chrétien, puisqu'il s'adresse aux chrétiens, le deuxième volet de son œuvre, c'est plus spécifiquement pour les chrétiens. Qu'est-ce qu'on peut faire si on est chrétien dans ce monde-là, le monde que l'on vient de décrire dans le premier volet, le monde de la technique, le monde de la recherche, de la puissance, de la démesure technicienne ou du déferlement technicien? Eh bien, Jacques Ellul est un chrétien et il croit donc au Dieu de Jésus-Christ et il voit là l'espérance. Pour les chrétiens, dans le monde technicien, il y a une espérance. Pourquoi ? Eh bien, parce que le Dieu de Jésus-Christ, c'est le seul Dieu, parmi tous les dieux possibles, réels ou imaginaires, mais tous les dieux possibles, c'est le seul Dieu qui soit à la fois extérieur au monde, et donc au système technicien, puisqu'il est créateur du monde, donc il est à l'extérieur, il est le tout autre, il est transcendant, et en même temps, il est incarné, il s'est incarné en Jésus-Christ, il a rejoint les hommes en Jésus-Christ. Il est à la fois dehors et dedans. Et c'est le seul Dieu, hein. Vous pouvez prendre d'autres dieux qui sont soit totalement transcendants, le Dieu de l'islam est totalement transcendant, et puis il y a des dieux totalement immanents. Le Dieu de Jésus-Christ, il est à la fois totalement... C'est l'altérité totale par rapport à nous, hein, c'est le tout autre. Et en même temps, il s'est révélé en Jésus-Christ et il a assumé notre condition selon la foi des chrétiens. Eh bien, c'est pour cela qu'il y a de l'espérance, parce que les chrétiens peuvent s'appuyer sur un Dieu qui est à l'extérieur et qui en même temps est aussi parmi eux. Comme je disais tout à l'heure, pour Jacques Ellul, nous sommes immergés dans le système technicien. Nous ne pouvons pas prendre de recul par rapport à ce système, comme des poissons dans l'eau. Mais parce que nous avons un Dieu, si nous sommes chrétiens, nous avons un Dieu qui est à l'extérieur, eh bien nous pouvons, grâce à cela, grâce à cette extériorité de Dieu, prendre du recul. C'est-à-dire que le message chrétien que Jacques Ellul retient au centre de sa vie, c'est la liberté en Christ. Le Christ permet à chaque croyant, à chacun de ceux qui croient en lui, de prendre de la distance par rapport à soi. C'est une libération non pas par rapport seulement à un objet extérieur, mais par rapport à soi. Et donc, la liberté en Christ, c'est la liberté que l'on peut prendre par rapport à soi-même. Nous sommes libérés de nous-mêmes si nous suivons le Christ. Parce que le Christ est à la fois celui qui est tout autre et en même temps tout proche. Et donc nous pouvons ainsi, tout en étant à l'intérieur même du système technicien, immergé dans ce système, nous dégager quelque peu du système, c'est-à-dire nous dégager de nous-mêmes, ou nous dégager de l'emprise du système sur notre imaginaire, sur notre façon de penser et de parler. C'est cette possibilité de recul par rapport à soi que permet le Dieu de Jésus-Christ parce qu'il est ce Dieu-là. Bon, alors, je ne vais pas développer tellement cet aspect-là, même si il y a consacré plusieurs centaines de pages, la question de la liberté du chrétien, par rapport à toutes les autres formes de liberté. À l'époque, dans les années 60-70, on parlait beaucoup de la liberté de mœurs, et il était professeur d'université, donc il était au contact de la jeunesse, qui pratiquait la liberté sexuelle, par exemple. Et il disait, mais ça, la liberté sexuelle, c'est un esclavage par rapport à soi. C'est un esclavage par rapport à ses propres pulsions. Ce n'est pas parce qu'on fait différemment de nos parents ou de nos aïeux qu'on est libre. La liberté, elle n'est authentique, elle n'est véritable que si on est libre par rapport à soi. Alors que la liberté sexuelle, c'est l'esclavage des pulsions, l'esclavage vis-à-vis de soi-même. Et puis, dernier point avant d'aborder l'espérance plus précisément, comme je disais que la loi de notre société moderne, la loi de notre société technicienne, c'est la loi de Gabor, tout ce que l'on peut faire techniquement sera nécessairement réalisé, eh bien le chrétien est invité à profaner la loi de Gabor. C'est-à-dire, c'est une éthique, l'éthique chrétienne est une éthique de la profanation. Il s'agit de considérer que c'est un sacré, que c'est une religion, que c'est la religion de tout le monde aujourd'hui, c'est notre religiosité commune. Eh bien, le chrétien, il n'a qu'un seul maître, c'est Jésus-Christ. Par conséquent, au nom de ce maître-là, il profane le sacré technicien. Ça ne veut pas dire qu'il faut se passer de la technique, pas plus qu'il faut se passer d'argent, pas plus qu'il faut se passer de la politique, ce serait absurde, on ne peut pas se passer ni de la technique, ni de l'argent, ni de la politique. Mais ça signifie qu'il faut le profaner, c'est-à-dire le ramener à un objet, le ramener à quelque chose d'utile. La technique peut être ramenée à des techniques. Vous voyez, sortir de la technique pour revenir à des techniques. Donc réduire ce qui prétend être une idole, un monothéisme tyrannique, le ramener à quelque chose d'utile. De même avec l'argent, on peut utiliser l'argent sans en être esclave, et bien de même, on peut ramener la technique à des techniques utiles, et parmi ces techniques, il y en a sans doute dont on pourra se débarrasser, parce qu'on n'en a pas besoin, mais il y en a dont on a besoin, et celles-là, on va les ramener parce qu'on aura profané la loi de Gabor. Alors, il me reste pour terminer à parler de l'espérance et de la non-puissance. Ce sont les deux thématiques auxquelles Jacques Ellul a consacré de nombreux ouvrages, de nombreux textes. Alors, je vais peut-être commencer par la non-puissance, et ensuite je terminerai par l'espérance. La non-puissance, l'éthique chrétienne, pour Jacques Ellul, c'est une éthique de la non-puissance, et c'est elle qui nous permettra de traverser les crises. Jacques Ellul a une pensée dialectique, c'est-à-dire qu'il met toujours les idées, les pôles, les termes, en relation les uns avec les autres. Au sujet de la non-puissance, c'est une dialectique à trois termes. La puissance, l'impuissance et la non-puissance. La puissance, c'est la capacité de faire des tas de choses, et c'est ce que la technique nous permet de faire. Nous sommes puissants, notre société est surpuissante, parce qu'elle nous permet de faire des choses que nos aïeux ne pouvaient même pas imaginer. Donc nous sommes surpuissants, nous sommes puissants. L'impuissance, c'est le fait de ne pas pouvoir faire des choses. Et paradoxalement, dans la société technicienne, nous sommes surpuissants, mais nous sommes aussi impuissants. Nous sommes en ce moment particulièrement impuissants face à ce qui se passe en Ukraine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut un surcroît de puissance? Est-ce qu'il faut intervenir avec un surcroît de puissance? On sait bien que c'est catastrophique. On est complètement impuissant, mais on est aussi complètement impuissant devant un ordinateur qui est en panne. On est complètement impuissant devant une méconnaissance de la technique qui nous permettrait de réserver un billet. On est à la fois surpuissant et impuissant. Et la non-puissance, ce n'est ni la puissance ni l'impuissance. La non-puissance, c'est un concept que Ellul a inventé sur le modèle de la non-violence, mais pour lui, la non-violence ne va pas assez loin. Il était non-violent, mais il était d'abord non-puissant. La non-puissance, c'est la capacité de faire, donc c'est la puissance, et le choix de ne pas faire. Donc c'est la capacité de faire des choses et le discernement qui nous amène à renoncer à faire tout ce qu'on est capable de faire. Donc c'est la profanation, la transgression de la loi de Gabor. D'où vient cette idée de non-puissance ? Eh bien, pour Ellul, elle vient de l'Évangile. Elle vient de sa foi dans le Dieu de Jésus-Christ. En effet, si vous connaissez les récits évangéliques, vous savez que le Christ, si vous croyez que Dieu, si vous prenez à la lettre ce que disent certains de ces textes, c'est-à-dire que le Christ est Dieu, le Christ est divin, et en cela, Ellul a une théologie très classique, hein, il croit à la Trinité, hein, il croit que le Christ est Dieu et donc tout-puissant, mais il n'a pas fait œuvre de toute-puissance. Il a choisi parmi ce qu'il pouvait faire certaines choses. Et parfois, on lui a demandé de faire des miracles. Alors, il en a fait, mais parfois, on lui a demandé uniquement pour manifester sa puissance et il a dit non. Il n'a pas fait tous les miracles qu'on lui a demandé. Il n'a fait les miracles que quand c'était en lien avec l'amour. Quand c'était pour la puissance, il ne l'a pas fait. Quand c'était pour sauver, pour guérir, pour manifester son amour, il l'a fait. Par conséquent, il a discerné parmi tous les possibles ce qu'il allait faire en lien avec l'amour, en vertu de l'amour, et ce qu'il a choisi de ne pas faire. Et puis, il a été arrêté, il aurait pu à ce moment-là échapper à son arrestation en faisant appel à des légions d'anges. Il a souffert, il a été martyrisé, il a été torturé, il aurait pu échapper à la souffrance, il est mort, il aurait pu échapper à la mort, etc. Et tout cela, il ne l'a pas fait. Il aurait pu aussi chasser les Romains de Palestine, il ne l'a pas fait. Beaucoup de choses qu'il aurait pu faire, si vous croyez, si Ellul croit que Jésus est Dieu et donc tout-puissant, eh bien, il n'a pas exercé sa toute-puissance, à tout moment. Si nous sommes, dit Ellul, si nous sommes des disciples du Christ, nous sommes invités à le suivre sur ce chemin de non-puissance, c'est-à-dire de ne pas faire tout ce que la société nous présente comme étant légitime, parce que, voilà, on peut le faire, donc faisons-le, sans autre considération. Et j'en viens à l'espérance, et je conclue avec l'espérance. Au milieu des crises, il y a l'espérance. Là aussi, Jacques Ellul a une dialectique à trois termes, l'espoir, le désespoir et l'espérance. Et l'espoir et l'espérance, c'est pas pareil. C'est même, on va voir, quasiment le contraire. Donc l'espoir, le désespoir, l'espérance. L'espoir, c'est la perspective d'une amélioration de la situation à vue humaine. C'est l'optimisme, si vous voulez. Donc, on va sortir de la crise ukrainienne, on va sortir de la crise sanitaire, du Covid. On va voir le terrorisme se diluer, on n'y aura plus d'attentats terroristes d'ici peu, on va conjurer la crise climatique, on peut avoir quelques raisons d'avoir de l'espoir. Vous voyez que, on va dire des raisons d'espérer, mais le verbe espérer peut renvoyer à l'espoir ou à l'espérance, c'est le même verbe. Mais on peut avoir des raisons d'espérer quand on est optimiste et qu'on regarde l'avenir. On n'en a pas beaucoup en ce moment, hein, mais on peut dire il y a peut-être une lucarne, il y a peut-être une possibilité, une lumière. Bon, le désespoir, c'est l'inverse, c'est-à-dire il n'y a plus aucune possibilité à vue humaine. On ne voit pas du tout d'issue. Et c'est plutôt notre situation aujourd'hui, alors qu'à l'époque d'Ellul, quand il a écrit « L'espérance oubliée », par exemple, en 72, ben, vous savez que la jeunesse, hein, certains d'entre nous y étaient, hein, la jeunesse était plein d'espoir. Hein, un monde nouveau, un monde meilleur, plus juste, plus pacifié. Quand il écrivait cela, il avait affaire à des jeunes pleins d'espoir. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, mais dans un cas comme dans l'autre, ce qu'il annonce, c'est l'espérance. Ni l'espoir, ni le désespoir. Et l'espérance, eh bien, c'est précisément quand il n'y a plus d'espoir. C'est-à-dire, quand toutes les issues sont bouchées et qu'on est tenté par le désespoir, alors surgit l'espérance. Quand, à vue humaine, il n'y a plus de possibilité d'être optimiste, alors surgit l'espérance, qui est un concept théologique, qui est une catégorie théologique, qu'il lit encore une fois dans sa tradition chrétienne, dans les écritures bibliques. Tout au long de la Bible, il est question d'espérance, et chaque fois en lien avec les promesses de Dieu. Dieu promet la terre promise, la libération de l'esclavage, le retour d'exil, de l'exode, la sortie de l'Égypte, retour d'exil, et puis finalement la venue du Messie. Tout cela est promis, et chaque fois Dieu tient ses promesses, parce que le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu fidèle et donc fiable. Et donc il y a toute une série de promesses tenues et qui donc répond à l'espérance du peuple. Et à la fin du Nouveau Testament, quelles sont les promesses de Dieu pour l'avenir, c'est-à-dire pour nous aujourd'hui? Eh bien, il n'est pas dit qu'on va sortir du Covid dans la Bible. Il n'est pas dit qu'on va sortir du terrorisme, ni de la crise en Ukraine, ni des règlements climatiques. Tout ça, il n'en est pas question. La seule chose qui est promise à la toute fin de l'évangile de Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », et dans le chapitre 8 de l'épître de Paul, de l'apôtre Paul aux Romains, « Rien jamais ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ». Donc ce qui est promis, c'est la présence de Dieu en Jésus-Christ, et non pas la solution aux problèmes humains. Ce qui fait dire à Élul, eh bien, que l'espérance, elle consiste à être confiant, non pas que Dieu va venir régler nos problèmes, il ne va pas intervenir comme ça, mais à être confiant dans la présence de Dieu pour traverser les crises. C'est-à-dire que les hommes ne sont pas seuls, les hommes et les femmes ne sont pas seuls, ils sont au bénéfice d'un Dieu qui les aime et qui les aide à traverser les crises. Non pas parce qu'il va prendre leur place, il va faire lui-même, non pas parce qu'il suffit d'attendre la fin des temps ou la mort et que ça ira mieux après, mais au contraire, pour être pleinement présent, actif, engagé au travers des crises, mais en s'appuyant sur cette espérance que nous ne sommes pas seuls et que par conséquent, nous traversons les crises avec l'aide de Dieu. Et donc c'est ça l'espérance. Alors c'est une espérance très exigeante parce qu'elle consiste à renoncer à l'optimisme, et qu'elle n'est pas du tout incompatible avec le pessimisme. Élul disait « Je suis un pessimiste rempli d'espérance ». Donc il n'est pas désespéré, mais il est pessimiste. C'est un pessimiste, il n'a pas d'espoir non plus. C'est un pessimiste rempli d'espérance, mais c'est ainsi que l'on peut traverser les crises, et il dit bien « traverser », il ne s'agit pas de les éradiquer, de les faire disparaître, il s'agit de les traverser en s'appuyant sur le Dieu de Jésus-Christ, en s'appuyant les uns sur les autres, en se retroussant les manches par la solidarité et en étant pleinement présent au monde. C'est ainsi le message qu'il nous donne à la fin de sa vie. Je suis un pessimiste rempli d'espérance, même si le XXIe siècle sera peut-être le dernier de l'histoire humaine.